Bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique, l'émission Sciences et Recherches de Radio Campus Rennes. L'année 2014 a été décrétée par l'ONU Année internationale de la cristallographie. Science que nous avons présentée dans une émission précédente, disponible bien sûr en podcast sur le site de Radio Campus Rennes. Mais voilà, la cristallographie, on la retrouve dans de nombreuses disciplines. Et c'est pour faire écho à cette diversité que je reçois aujourd'hui Reynald Gillet. Reynald Gillet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes biologiste à l'IGDR, l'Institut Génétique et Développement de Rennes, où vous dirigez l'équipe Traduction et Repliement, deux termes sur lesquels on reviendra plus tard. Mmh. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe lors de la synthèse des protéines à l'intérieur de nos cellules. Mais alors du coup, que vient faire la cristallographie dans nos cellules? Si nous avions un sort de cristaux comme des diamants, ça se saurait, non? Mais on va pas griller les étapes, on va commencer plus simplement. Direction la cellule, où on trouve donc les protéines. Pouvez-vous nous dire brièvement ce qu'est une protéine?
Oui, bien sûr, merci pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ces travaux, l'année qui a été décrétée comme dédiée à la cristallographie, puisque c'est un outil extrêmement utile dans nos études. Et à savoir que vous avez tout à l'heure parlé du terme de traduction. La synthèse protéique est également appelée traduction, puisqu'il faut traduire un code, qui est notre code génétique, en protéine. Alors, comment ça se passe? C'est tous les êtres vivants possèdent un code génétique. Hein, on a l'habitude de parler de l'ADN, hein, on le voit à la télévision, on en entend parler à la radio, dans les médias, etc. L'ADN, c'est l'acronyme d'acide désoxyribonucléique qui est le porteur de notre code génétique, c'est-à-dire de ce qui va nous définir dans notre vie de tous les jours, qui fait que je suis brun, vous êtes également brun, je ne suis pas très grand, enfin, etc. Voilà, ça ne définit pas non plus tous les caractères, etc. Bien sûr, je ne parle pas de l'environnement. Et ce code génétique, à un moment donné, tout être vivant qui possède ce code génétique se doit de l'exprimer. Alors, l'exprimer en quoi? Dans de nombreux cas, il faut l'exprimer en protéines. Alors, les protéines, qu'est-ce que c'est? On est parti d'un code génétique dont je parlais à l'instant, l'ADN, qui est constitué par un alphabet uniquement de 4 lettres. Alors, les 4 lettres que vous avez peut-être déjà vues par ailleurs, A, T, G, C, ce sont 4 lettres qui, mises bout à bout, sur des longueurs mais infinies, hein, c'est-à-dire ce sont plusieurs encyclopédies de codes ADN, ATGC que nous possédons dans notre corps humain, eh bien, à un moment, doivent être traduits pour fabriquer ces fameuses protéines. Ces protéines, elles servent à quoi? Elles ont de nombreuses utilités dans un corps humain ou dans une cellule. Hein. Il n'y a pas que l'homme qui soit vivant sur Terre, bien heureusement. Et ce code génétique permet de fabriquer donc, des protéines qui ont un rôle à la fois de structure, c'est-à-dire qui vont permettre de former la peau, nos cellules, etc. Donc ça, c'est un rôle vraiment structural. Et puis, il y a un rôle très très important qui est un rôle qu'on dit enzymatique, donc qui permet d'avoir une activité dans notre corps. On mange, il faut digérer, etc. On a besoin d'enzymes, ce sont des protéines.
D'accord, donc les enzymes, ok, c'est des protéines.
Exactement.
Et donc elles sont indispensables, ces protéines, à notre fonctionnement?
C'est indispensable tout simplement à la vie, c'est-à-dire sans ces protéines, on ne peut pas vivre. Mais il faut un code pour ces protéines. Et ce code à 4 lettres, la grande difficulté pour tout organisme vivant, c'est de le transformer en un code à plus de 20 lettres, qu'on appelle les acides aminés, qui sont les petites perles qui constituent le collier que sont les protéines.
Donc voilà. Les protéines sont un ensemble d'acides aminés.
Voilà.
Et qu'est-ce que les acides aminés?
Alors les acides aminés, c'est l'élément de base. On pourrait le décrire à la fois d'un point de vue chimique, mais également biochimique, biologique. Mais on va dire que c'est une pièce de Lego d'une certaine couleur. Et selon le code génétique au départ, ces pièces de Lego seront agencées d'une certaine manière pour former un grand Lego. Alors l'image de Lego, peut-être que je vais vite l'enlever parce qu'un Lego, c'est assez rigide. Et une protéine, c'est plutôt souple. Donc je vais reprendre l'image du collier de perles. Les acides aminés, ce sont des perles toutes de couleurs différentes. On en a à peu près 20. En fait, il y en a 22 au départ, de couleurs différentes. Et selon le code ADN que l'on porte dans nos cellules et selon l'expression de cet ADN, on va agencer les perles les unes derrière les autres pour former un collier qui va se replier sur lui-même et qui est différent pour former une enzyme ou une protéine structurale, par exemple.
Et comment on passe de ce code génétique à ce collier de protéines ?
Alors ça a été un des grands mystères de la biologie du XXe siècle. Il faut bien savoir que ce qui semble tellement évident lorsque je vous le dis était inconnu il y a encore 60-70 ans. C'est-à-dire que l'ADN, la structure en double hélice d'ADN que l'on voit maintenant partout a été découverte quand même pas tardivement, mais récemment, en 1953. Le passage de cet ADN vers les protéines, lorsqu'il doit faire des protéines, parce que c'est un peu plus compliqué que cela, bien évidemment, ça a été découvert dans les années 70 uniquement, 60-70. Donc ce sont des choses très très récentes, et bien entendu, il faut des machines moléculaires que nous possédons dans nos cellules, pour former ces protéines avec un code beaucoup plus compliqué que le code à 4 lettres. Alors il se trouve que la vie fait que nous avons un intermédiaire entre l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, et les fameuses protéines. Et cet intermédiaire, c'est l'ARN, acide ribonucléique. Alors, il y a une petite nuance qui est une nuance chimique, mais entre acide ADN et ARN, la nuance est tellement importante qu'elle provoque beaucoup, beaucoup de bouleversements dans le corps humain.
Donc, il ne faut pas les confondre.
Il ne faut surtout pas les confondre. Ces ARN, on en trouve de différentes classes. Et là, c'est très compréhensible, car l'ADN qui doit codé pour une protéine, son intermédiaire s'appelle l'ARN messager. C'est son messager, c'est-à-dire qui va amener son message pour être traduit en protéine. Alors pourquoi il y a un intermédiaire ? On pourrait se dire, mais pourquoi l'ADN ne donne pas directement des protéines ? Il y a de multiples raisons à cela, mais les raisons essentielles sont que notre ADN, notre code génétique et notre patrimoine est extrêmement précieux, bien évidemment, et ça permet à cet ADN de ne pas trop s'exposer à une chimie qui est extrêmement caustique dans nos cellules. Et donc lui, il envoie un messager, son intermédiaire, pour lui dire, tiens, va faire cette protéine ou cette autre protéine. Et puis, d'avoir un intermédiaire tel que l'ARN messager, ça lui permet de se démultiplier, c'est-à-dire qu'à partir d'un ADN, eh bien, la cellule est capable de fabriquer des milliers d'ARN, notamment des milliers d'ARN messagers. Donc à partir d'un message de départ, enfin d'un ADN de départ, d'un gène, eh bien, on peut fabriquer des milliers de messagers qui eux-mêmes seront traduits en protéines. Chaque messager sera traduit en milliers de protéines. Donc vous voyez qu'il y a une manière d'expansion comme ça. À partir d'un seul gène, on peut faire des millions de protéines à partir de milliers d'intermédiaires ARN messagers.
Et alors du coup, comment on passe d'un ARN à des protéines ?
Alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est une question qui a vraiment occupé beaucoup, beaucoup de laboratoires scientifiques jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, bien qu'on ait en partie les grandes lignes de ce mécanisme. Le passage de l'ADN à l'ARN était, on va dire, relativement simple, puisqu'on passait d'un alphabet de 4 lettres à un alphabet de 4 lettres. On passait juste de ATGC à AUGC. Par contre, de passer d'un ARN messager à une protéine nécessite le passage d'un alphabet de 4 lettres à UGC à un alphabet de 22 lettres, que sont les acides aminés. Et là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ces acides aminés n'ont rien à voir avec les molécules de base de l'ADN ou de l'ARN qu'on appelle des nucléotides. Il faut donc une machine, ce qu'on appelle une machine moléculaire, qui s'appelle le ribosome, qui permet d'absorber ce message et de le transformer en protéine. Souvent, je le compare à un orgue de barbarie. Je ne sais pas si vous voyez ce système d'orgue de barbarie dans lequel on entre des petites cartes qui sont cochées. Et en fonction des encoches sur ces petits cartons, eh bien, vous avez une mélodie qui va sortir, qui est différente. Il suffit de cocher. Eh bien, le ribosome, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, il va prendre un ARN messager, donc la petite carte, le petit carton avec des encoches. Il ne va pas s'occuper de ce qu'il y a dessus, lui. Lui, il va l'absorber et il va ressortir sa mélodie, que sont des protéines. Quel que soit le message, lui, c'est une machine qui va lire ce petit carton avec ses encoches, qu'est l'ARN messager.
Et donc des ribosomes, il y en a dans toutes les cellules ?
On en a dans toutes les cellules. Alors, si je pars sur la notion de vie, qu'est-ce que la vie, quelle est la définition de la vie, moi, puisque je m'intéresse personnellement aux ribosomes, je l'associe souvent à une cellule est vivante si elle est capable de transformer son code génétique en protéine, donc s'il a des ribosomes. Et il se trouve effectivement qu'une bactérie a entre 20 000 et 100 000 ribosomes. Nous avons nous-mêmes des milliards de ribosomes, continuellement actifs. Là, on vient de parler pendant 5 ou 10 minutes, on a fabriqué des milliards de ribosomes qui eux-mêmes ont fabriqué des milliards de protéines pendant ce temps-là. Maintenant, voilà, il y a un petit cas à part que l'on connaît tous, surtout durant cette saison, ce sont les virus. Et les virus ne possèdent pas de ribosomes. Et c'est bien pour ça qu'on est si embêté pendant ces périodes ou dans des situations beaucoup plus graves. Ces virus ont besoin de venir coloniser nos cellules pour utiliser nos ribosomes, pour fabriquer leurs protéines. Et c'est pour ça qu'on est toujours embêté par, en ce moment, alors effectivement, quelques rhinovirus, mais il y a évidemment des virus beaucoup plus dangereux et plus graves. Et le gros problème de ces virus, c'est qu'ils ont tout leur système, ils ont un code génétique, mais pour se répliquer, ils ont besoin de fabriquer des protéines et ils ne savent pas faire. Et donc, ils viennent coloniser nos cellules. Alors, parfois, des cellules très spécifiques dans le foie, dans le sang ou dans nos sinus. Mais voilà, les virus sont donc à la limite de la vie puisque tout seuls, ils sont incapables de se répliquer.
Tout à l'heure, vous parliez de traduction. Donc, la traduction a lieu dans les ribosomes ?
Alors, à la fois, elle a lieu dans les ribosomes, mais surtout, elle est réalisée par les ribosomes. Donc, il y a ce petit messager qui rentre dans le ribosome, et lui, alors c'est quelque chose d'assez gros à l'échelle cellulaire, un ribosome. Et ces ribosomes, ce sont eux qui fabriquent les protéines. Il faut bien savoir que c'est une machine extrêmement efficace, puisque d'une part, elle n'a pas le droit de se tromper, pour peu que je lui donne une certaine conscience, ce qui n'est pas le cas, puisque sinon, à partir d'un code génétique, si vous faites n'importe quoi derrière et qu'on n'a pas la protéine qui correspond au code génétique, c'est la catastrophe. Donc ce ribosome se doit à la fois de ne pas se tromper, mais d'être suffisamment efficace. Et donc c'est quand même un événement extrêmement rapide. Un ribosome est capable, à partir d'un code génétique pourtant très précis qu'il faut décoder, et il arrive à enchaîner le ribosome, quand il est dans une cellule qui est en forme, de 10 à 15 perles, donc 10 à 15 acides aminés par seconde, et de manière extrêmement précise, c'est-à-dire qu'il doit choisir parmi les 22 possibilités le bon acide aminé, et bien il le fait une quinzaine de fois par seconde, ce qui est absolument fabuleux.
Une fois la protéine produite, elle est fonctionnelle et on peut...
Alors ça, c'est dans le meilleur des cas. Il faut bien savoir que les ribosomes sont tellement actifs qu'ils s'empilent les uns derrière les autres pour sortir des protéines très très rapidement. Et alors, on comprend aujourd'hui et de mieux en mieux que le rythme de fabrication d'une protéine est extrêmement important. Donc il ne suffit pas de sortir une protéine à toute vitesse qui ensuite va se faire attrapé et dégradé par ce qu'on appelle des protéases, qui sont les enzymes qui les mangent. Mais il faut que cette protéine se replie. Il faut qu'elle se replie correctement. Alors pour cela, elle fait appel à d'autres protéines, que l'on appelle des protéines chaperones, qui viennent l'entourer, l'aider à se replier. Et donc la vitesse de fabrication de cette protéine, on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est extrêmement importante, elle est très régulée, et en fonction de son rythme de sortie du ribosome, elle peut se replier correctement ou pas. Et lorsqu'elle ne se replie pas correctement, c'est également une catastrophe, car si elle n'est pas détruite, si elle se replie pour faire des agrégats ou des amas trop denses, qui ne peuvent pas être attrapés par une enzyme telle qu'une protéase qui va les dégrader, on se trouve confronté à de véritables problèmes, et notamment, c'est ce qu'on retrouve dans les agrégats amyloïdes, dont on parle actuellement, maladie d'Alzheimer et autres.
Et comment de simples protéines peuvent donner une maladie d'Alzheimer ?
Alors en fait, c'est l'accumulation de ces agrégats qui vont former des amas là où il ne faut pas, tout simplement, hein, au niveau des cellules neuronales ou du cerveau, et qui vont empêcher un bon fonctionnement des cellules neuronales.
Et pourquoi ces protéines doivent se replier ? À quoi ça sert ?
Alors en fait, c'est ce que nous, biochimistes, on appelle les structures primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. Lorsque j'ai un simple message, et l'image que j'ai donnée tout à l'heure du collier de perles, on peut couper ce collier juste une fois et en faire un collier ouvert, donc juste une ligne avec des perles alignées. Ça, c'est une structure primaire, ça ne sert à rien. Et ça se fait tout de suite attraper par une protéase qui va venir la dégrader. La structure secondaire implique un repliement tout simple de cette protéine sur elle-même qui va lui donner une première forme. Et puis, il y a des structures tertiaires qui vont entraîner vraiment une forme définitive. Parce que n'oublions jamais, même si on est souvent à dessiner ça sur des feuilles de papier, qu'on est dans l'espace et qu'il faut une forme très particulière. Il y a une image que je n'aime pas trop, mais que je vais quand même utiliser. Alors pourquoi je ne l'aime pas ? Parce qu'elle est très rigide. C'est celle de la clé dans la serrure. Et il faut imaginer une clé molle dans une serrure molle. Et pour qu'une enzyme trouve son substrat, pour que la protéine agisse correctement, il faut qu'elle adopte une forme dans l'espace. Et une forme souple. Imaginons une clé, mais qui soit souple, qui se transforme dans l'espace, notamment lorsqu'elle rentre dans sa serrure. Et ça, c'est des reconnaissances de forme qui sont la base de la vie. Donc il faut que la protéine ait une taille, une forme, des charges électriques adéquates au bon endroit pour reconnaître une autre protéine, un autre partenaire, ou tout simplement pour qu'elle elle joue son activité dans la cellule. Et donc ça se passe vraiment en trois dimensions.
Donc la protéine a besoin d'avoir cette structure tridimensionnelle pour être efficace.
Exactement. Si vous avez une structure simplement, comme je disais tout à l'heure, primaire, c'est-à-dire un collier de perles qui s'étale, ça c'est tout de suite détruit. Et bien heureusement parce que ça peut créer d'énormes problèmes dans nos cellules si on accumule ce type de structure qui peut par exemple s'empiler et faire à nouveau des agrégats tels que des agrégats amyloïdes. When I go, don't cry for me. In my father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. Gold and silver blind the eye, temporary riches lie. Come and eat from heaven's store, come and drink and thirst no more. So weep not for me, my friend, when my time below does end. For my life belongs to Him who will raise the dead again. It don't matter where you bury me, I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away.
C'était Anne Brune avec le titre All My Tears. Nous sommes de retour dans le Labomatique sur Radio Campus Rennes avec Reynald Gillet, biologiste à l'IGDR. Maintenant que dans la première partie, nous avons défini le contexte de ce qui se passe lors de la synthèse des protéines à l'intérieur de nos cellules, parlons de vos recherches à l'Institut de génétique et développement de Rennes. En quoi consiste-t-elle ?
Alors, nous avons plusieurs axes de recherche à l'IGDR, mais effectivement, dans l'équipe de recherche que je dirige, qui s'appelle Traduction et repliement, et là, je suis sûr que vous comprenez mieux le titre, la traduction pour la synthèse protéique et le repliement pour le repliement des protéines, puisqu'il ne s'agit pas juste de fabriquer des protéines, mais après, il faut qu'elles se replient correctement. On l'aura bien compris. Donc nous, on a plusieurs axes de recherche dans l'équipe, à savoir un axe qui est l'étude de la synthèse protéique et surtout de comprendre comment cette synthèse protéique se réalise correctement. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il suffit de mettre le carton et la mélodie sort de l'autre côté, mais le carton peut par exemple s'abîmer. Et là, vous avez la mauvaise mélodie qui sort. Et il se trouve que, étonnamment, on s'aperçoit que les cellules, même quand il y a des cartons abîmés, donc un message qui est un petit peu problématique, elles se débrouillent, elles ont pléthore de systèmes de contrôle qualité qui leur permettent de ne pas sortir la mauvaise mélodie. Alors, il y a une limite à ça, bien évidemment. Il peut y avoir débordement de ces systèmes de contrôle qualité, mais ces systèmes de contrôle qualité sont extrêmement importants pour tout de même contrôler que, est-ce que c'est bien un carton adapté ? Est-ce que le carton n'est pas abîmé ? Est-ce que la mélodie n'est pas complètement erronée ? Ça, il y a des systèmes de contrôle qualité. Donc, on étudie, une des activités du laboratoire, c'est d'étudier les systèmes de contrôle qualité du ribosome. Notamment chez la bactérie, on peut tout aussi bien étudier la bactérie que le ribosome de l'être humain. Je vous avoue que à l'échelle à laquelle on regarde les ribosomes, que l'on regarde un ribosome de bactérie ou un ribosome d'être humain ou de levure, ils sont légèrement différents certes, mais nous on est intéressé par le mécanisme en lui-même, donc le rouage.
Oui, donc si vous comprenez le mécanisme au niveau des bactéries, il risque d'être semblable à celui des ribosomes contre la cellule humaine.
Exactement. Alors, Vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi ? C'est la question qu'on a tout le temps. Hein. Et non, mais j'anticipe déjà le problème. Alors, évidemment, lorsqu'on étudie ça, il y a une chose qu'il faut bien comprendre et qui est fondamentale, et le mot fondamental est important, c'est qu'on effectue une recherche pour améliorer les connaissances. Donc, nous, on veut premièrement savoir comment fonctionne le ribosome, qu'il soit humain ou bactérien. Et bien souvent, ce type d'étude peut avoir une finalité, d'accord ? Quand on comprend bien comment fonctionne le ribosome bactérien, par exemple, maintenant, je vais vous donner une notion que vous avez peut-être, mais la moitié des antibiotiques que l'on utilise en clinique, quand je dis en clinique, donc c'est à l'hôpital ou en ville, vont bloquer les ribosomes des bactéries. Donc ça, c'est une finalité, je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est un problème de santé publique majeur que de découvrir des nouveaux antibiotiques, que de développer les antibiotiques actuels. Et lorsque l'on connaît la cible précisément, lorsque l'on connaît son mécanisme d'action, le rouage de l'orgue de barbarie, alors on peut l'inhiber beaucoup plus facilement. Parce que là, on est dans une problématique très très particulière. Lorsque les bactéries envahissent nos cellules, de manière erronée, c'est-à-dire que lorsque les bactéries provoquent une maladie chez nous, eh bien, lorsque cette bactérie n'est pas au bon endroit et qu'elle provoque une maladie, donc nous avons des cellules ou dans notre sang énormément de bactéries avec des ribosomes. Si on bloque ces ribosomes, on va inhiber ou tuer les bactéries en question. Mais il ne faut pas que le médicament en question bloque nos propres ribosomes. Et pourtant, je vous ai dit tout à l'heure, ils sont très proches l'un de l'autre. Donc, c'est vraiment au niveau moléculaire, voire atomique, qu'il y a des petites différences. Et donc, nos études permettent de mieux comprendre ces différences.
Et d'améliorer la précision après des
exactement,
traitements.
Exactement. Parce que si on prend un antibiotique qui tue la bactérie, mais qui tue nos propres cellules, hein, on n'est plus dans l'antibiothérapie. Hein.
Et en laboratoire, quel type d'expérience faites-vous pour essayer de comprendre justement ces mécanismes ?
Alors là, l'image est relativement simple hein, à comprendre, puisque nous, notre but, c'est de visualiser ces ribosomes en trois dimensions. Donc, je n'ai pas 36 000 solutions. Hein, lorsque je veux voir quelque chose qui est plus petit que moi, je prends une loupe. Donc, j'ai un grossissement qui me permet de voir certains détails. Mais là, je vous ai dit, on est dans beaucoup, beaucoup plus petit qu'un cheveu. Donc, je peux prendre un microscope tel qu'on l'entend habituellement avec des lentilles de verre extrêmement puissantes. Mais là, il y a également une limite physique. Et a été créé, suite à la Deuxième Guerre mondiale, un système de microscopie qui est extrêmement élaboré et très puissant, qui n'est pas à la base de photons, donc de lumière, mais d'électrons, qui est la microscopie électronique. Et donc, nous, on utilise deux grandes méthodes. C'est quand même pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, je crois, que sont la cristallographie aux rayons X. On utilise comme source pour donner une image, ou en tout cas une diffraction d'une image des rayons X, et non pas des photons, donc de la lumière, ou des électrons, c'est la microscopie électronique.
Au sujet de la cristallographie, donc on va parler de cristaux, donc vous étudiez les protéines, et est-ce qu'on peut trouver des protéines sous forme de cristaux dans la nature ?
Alors ça, c'est une excellente question, et je pense même qu'elle est à la base des premières recherches en cristallographie aux rayons X. Alors, nous, on travaille, et notamment en collaboration, pour visualiser alors en trois dimensions les ribosomes. Mais est-ce qu'ils existent dans la nature ? Il y a une très belle histoire, c'est que le ribosome, la structure du ribosome à une échelle très très petite, qu'on appelle l'échelle atomique, a été vraiment une magnifique histoire qui a abouti dans les années 2000. Donc vous voyez que c'est très très récent. Et qui a permis à trois chercheurs exceptionnels d'obtenir le prix Nobel de chimie en 2009 pour leur découverte sur la structure du ribosome par cristallographie aux rayons X. Et j'en viens à ma petite histoire, c'est que une des pionnières dans cette étude de la cristallographie aux rayons X est Ada Yonath, qui travaillait à l'époque en Israël et en Allemagne. Et elle raconte toujours cette histoire, c'est que en fait, elle, on la prenait vraiment pour une dingue à l'époque parce qu'aller cristalliser des ribosomes qui sont aussi grands, en tout cas, je vous ai dit tout à l'heure, à l'échelle cellulaire, c'est quelque chose de relativement grand. C'était vraiment quelque chose, c'était un graal, mais qui semblait inatteignable. Vraiment, c'était, pour les scientifiques en tout cas, beaucoup riaient sous cap en entendant parler de ces travaux. Et elle raconte qu'elle a eu cette idée que les ribosomes pouvaient être cristallisés lorsqu'elle a vu que les ours polaires, pendant leur période d'hibernation, eh bien, empaquetaient, alors c'est pas consciemment bien évidemment, mais les ribosomes des ours polaires s'empaquettent sous forme de forme pseudo-cristalline. Et donc, elle a eu cette intuition qu'il serait possible de cristalliser les ribosomes dans un tube à essai ou dans un laboratoire, sous certaines conditions. Et je veux bien qu'on en parle, parce que c'est assez exceptionnel. Hein. Les études ont été faites sur des bestioles, mais tellement différentes de nous, qui résistent à des conditions extérieures, à des stress exceptionnels. Mais l'histoire commence avec les ours polaires, qui pendant leur période d'hibernation, empaquettent sous forme pseudo-cristalline leurs ribosomes. Donc oui, ça existe dans la nature.
Et en laboratoire, comment on peut faire cristalliser des ribosomes ?
Alors, soit on fait venir des ours polaires, mais ça, je ne pense pas qu'on ait le droit et c'est un petit peu dangereux. Mais alors, pour fabriquer des cristaux de ribosomes, ces chercheurs se sont livrés mais vraiment à une... Je ne veux pas parler de guerre, parce que malgré tout, on est quand même entre scientifiques et le but, c'est de faire avancer les connaissances. On n'est pas obligé de se faire du mal. Mais la bataille a été très, très intense et chacun avait un petit truc, c'était d'aller chercher une bactérie ou un organisme extrémophile. Alors pourquoi extrémophile ? Parce que d'une part, il faut que les ribosomes forment des cristaux. Donc pour fabriquer ces cristaux, il faut des conditions très particulières. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous voulez faire des cristaux à la maison, par exemple, vous pouvez mettre plein de sel dans de l'eau, vous faites bouillir l'eau. Vous faites bouillir votre eau le plus longtemps possible. Et à la fin, vous allez avoir plein de cristaux de sel, mais tout dégouttant au fond de votre casserole. Donc c'est pas trop comme ça qu'on procède, mais si vous faites bouillir très lentement, sous certaines conditions, vous aurez des jolis cristaux. Hein, et dans ces cristaux, il faut une certaine répétition des éléments qui composent ces cristaux, comme dans le sucre ou le sel que nous avons à table. Donc il faut des ribosomes qui soient cristallisables dans des conditions quand même assez extrêmes, et surtout qui vont être capables de supporter le rayonnement X. Rayonnement X qui est un rayonnement extrêmement puissant qui va dégrader la matière biologique. Et donc, tous ces chercheurs se sont tournés vers des extrémophiles. Alors à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est il n'y a pas si longtemps, hein, c'était dans les années, même début des années 2000, Ada Yonath, qui vivait en Israël, qui est israélienne, s'est tournée vers les bactéries qui vivent dans la mer Morte. Donc qui, vous le savez, ont des concentrations salines extrêmement élevées. Et donc sur même les cristaux de sel qui sont autour de la mer Morte, il y a des bactéries qui survivent. Elle a utilisé ce type de bactéries pour en purifier les ribosomes. Puisque je vous ai dit, toutes les bactéries ont des ribosomes qui sont légèrement différents les uns des autres. Venki Ramakrishnan, en Angleterre, qui était d'abord aux États-Unis puis en Angleterre à Cambridge, lui, il a utilisé un thermophile, Thermus thermophilus, qui est une bactérie qui vit dans les sources chaudes aux États-Unis à 75-80 degrés Celsius. Donc c'est assez impressionnant, c'est-à-dire même pour cultiver ce type de bactéries, vous avez des étuves où vous avez la vie à 80 degrés. Mmh. C'est très très impressionnant. Et puis il y a eu des études sur des souches radiodurance, donc ce sont des souches, des espèces bactériennes qui ont survécu à la bombe atomique, qui vivent très très bien malgré des rayonnements radioactifs très puissants. Donc voilà, c'est à partir de toutes ces bestioles un petit peu particulières et exotiques qu'ont été isolés les ribosomes, qui ont permis d'obtenir les cristaux de ribosomes qui ont mené au prix Nobel en 2009.
Quel est l'avantage de faire cristalliser des ribosomes ?
Alors, l'avantage de la cristallographie, c'est que lorsque ces cristaux sont de qualité suffisante, et qualité suffisante, ce n'est pas seulement esthétique, c'est-à-dire lorsqu'ils diffractent bien aux rayons X, c'est-à-dire qu'il s'agit de les frapper avec un rayon X. Alors pour ça, on ne fait pas ça n'importe où. Hein. Et lorsqu'on veut atteindre des bonnes résolutions, des résolutions suffisantes en termes structurels, il faut se déplacer sur des grands instruments, notamment les synchrotrons. Et lorsque ces cristaux sont frappés par les rayons X, ils vont donner une empreinte derrière le cristal, qui est la diffraction des rayons X de départ lorsqu'ils frappent les atomes dans le cristal. Alors comme le cristal est une succession de molécules ordonnées de la même molécule toujours dans la même orientation, on peut à partir des spots que l'on retrouve qui sont diffractés derrière le cristal, reconstituer la structure tridimensionnelle de l'objet de départ.
Et qu'est-ce que ça vous donne comme info, cette structure ?
L'info, elle est absolument incroyable. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à avoir des résolutions suffisantes, on peut avoir la position de chaque atome qui constitue le ribosome. Et il faut savoir qu'un ribosome, on peut atteindre des quantités phénoménales d'atomes, jusqu'à 1 million d'atomes, que vous positionnez dans l'espace. Et la position dans l'espace, c'est que Et c'est pour ça que ce prix Nobel a été attribué en 2009, c'est que ces chercheurs, ils ne se sont pas arrêtés. Là, c'est qu'ensuite, ils ont fait diffuser dans ces cristaux de ribosomes des antibiotiques pour voir comment les antibiotiques fonctionnaient. Et du coup, maintenant, on peut avoir la carte tridimensionnelle avec le positionnement de chaque atome d'un ribosome vide, bactérien, et à côté d'un ribosome en présence d'un antibiotique, qui est tout, tout petit par rapport au ribosome. Hein. C'est vraiment la taille d'une orange par rapport à la Terre. Et cette orange, vous pouvez voir où exactement elle se situe, où elle fait des interactions. Eh bien, c'est juste du bon sens. À partir de là, vous prenez même une planche à papier et vous redessinez des antibiotiques qui sont susceptibles d'aller se fixer au même endroit avec quelques modifications pour éviter telle ou telle résistance. Je simplifie à l'extrême, mais c'est exactement ce que font beaucoup de laboratoires actuellement, c'est-à-dire d'aller redessiner des antibiotiques par rapport à la carte du ribosome.
Et en connaissant ces structures de ribosomes, est-ce qu'il serait aussi possible à l'inverse de modifier les ribosomes ?
Ah, ça c'est également... Alors ça c'est un grand pan de recherche qui est quasi totalement inconnu et qui sera, je pense, une des grandes voies de recherche pour l'avenir. Lorsque des jeunes me demandent quel est l'avenir pour la recherche dans ce domaine, évidemment, ça passe par la fabrication de ribosomes modifiés et donc de protéines modifiées, ce qu'on appelle la biologie synthétique notamment. Et donc, il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus, à savoir, aujourd'hui, je vous ai dit, on a un code à 4 lettres, transformé en un code à 22 lettres, donc on passe de l'ADN aux protéines. Et il y a des équipes qui, à partir d'un code de 4 lettres, arrivent à fabriquer de nouveaux codes de départ et surtout un nouveau code d'arrivée, c'est-à-dire qui fabriquent des protéines avec des perles qui n'existaient pas dans la nature. C'est-à-dire qu'on arrive à obtenir aujourd'hui des protéines totalement inconnues, alors qui seront peut-être juste toxiques ou dégradées, mais certaines vont avoir des activités biologiques exceptionnelles, c'est une évidence. On va pouvoir fabriquer des anticorps. Les anticorps monoclonaux, par exemple, qui sont une des voies thérapeutiques majeures d'avenir, malgré leur coût, qui sont vraiment en pleine expansion, notamment dans le traitement de certains cancers aujourd'hui. On va pouvoir fabriquer des nouvelles protéines, de nouveaux anticorps, avec un nouveau code génétique et avec des ribosomes modifiés. Et il y a notamment une équipe à Cambridge, en Angleterre, c'est Jason Chin qui fabrique des ribosomes qui lisent différemment les cartes d'ARN messager, qui fabrique des protéines inconnues. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quoi ça va servir, mais il est certain qu'il va y avoir une utilité à cela.
Donc les applications sont presque illimitées en fait, si on peut fabriquer des protéines de façon totalement synthétique.
Vous avez tout compris, c'est-à-dire que le but pour l'instant est de fabriquer des protéines quasiment au hasard et de voir quelle peut être leur activité. Et à partir de là, il sera possible, et ça, d'arriver à des chimères, par exemple des bactéries chimères ou des cellules chimères, capables de fabriquer des nouvelles protéines. Tout ce pan de la biologie synthétique est vraiment en plein développement.
C'est la fin du Labomatique, merci de nous avoir écoutés lors de ces 3 émissions consacrées à l'année internationale de la cristallographie. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver en podcast ces émissions sur radiocampusrennes.fr et vous pouvez retrouver également des informations concernant les différents événements comme les conférences, les expositions liées à cette année internationale de la cristallographie. Quant à moi, je vous dis à une prochaine sur Radio Campus Rennes et n'oubliez pas d'être curieux.